Chapitre 6, dans lequel Mrs. Miller fait une visite à Sophie. L'accès auprès de la jeune personne était extrêmement facile, car elle vivait alors avec sa tante absolument comme une amie, et pouvait en conséquence recevoir en pleine liberté toutes les visites qu'elle voulait. Sophie s'habillait quand on vint lui annoncer qu'il y avait en bas une dame qui désirait la voir. Comme elle ne redoutait pas de recevoir une personne de son sexe en cet état, Mrs. Miller fut introduite sur le champ. Après les révérences et les cérémonies accoutumées entre femmes qui sont étrangères l'une à l'autre, Sophie dit « Je n'ai pas le plaisir de vous connaître, madame. »«
Cela est vrai, madame, » répondit Mrs. Miller, « et je dois vous demander pardon de mon indiscrétion.
Mais quand vous saurez ce qui m'a engagé à la commettre, j'espère... »«
Je vous en prie, madame, quelle affaire avez-vous à me confier ?» dit Sophie avec un peu d'émotion.
« Madame, nous ne sommes pas seuls, » reprit Mrs. Miller à voix basse.
« Sortez, Betty, » dit Sophie.
Quand Betty fut sortie, Mrs. Miller dit « Un jeune homme très malheureux m'a prié, madame, de vous remettre cette lettre. » Sophie changea de couleur en voyant l'adresse, dont elle connaissait bien l'écriture, et après avoir hésité un moment, répondit « Je n'aurais pu croire, madame, d'après votre extérieur, que c'eût été une affaire de cette nature. De quelque part que vienne cette lettre, je ne l'ouvrirai point. Je serais fâché de concevoir un injuste soupçon de qui que ce soit, mais vous êtes totalement une étrangère pour moi.
« Si vous voulez avoir patience, madame, » répondit Mrs. Miller, « je vous instruirai qui je suis et comment cette lettre m'est parvenue.
Je n'ai pas la curiosité de rien savoir, madame, mais je dois insister pour que vous rendiez cette lettre à la personne qui vous l'a remise. »
Mrs. Miller se jeta alors à ses genoux et, dans les termes les plus passionnés, implora sa compassion.
Sophie lui répondit « Assurément, madame, il est surprenant que vous vous intéressiez si fortement en faveur de cette personne. »«
Je ne voudrais pas croire, madame. »«
Non, madame, » dit Mrs. Miller, « vous ne croirez rien que la vérité. »«
Je vous dirai tout, et vous ne vous étonnerez plus de l'intérêt que je prends à lui. »«
C'est la meilleure créature qui ait jamais existé. »
Elle raconta alors toute l'histoire de M. Anderson.
Après quoi elle s'écria « Voilà, madame, voilà l'effet de sa bonté. »
Mais je lui ai des obligations beaucoup plus grandes encore. Il a été le sauveur de ma fille.
Ici, après avoir répandu quelques larmes, elle raconta tout ce qui était relatif à ce fait, en supprimant seulement les circonstances qui auraient trop compromis la réputation de sa fille, et termina en disant « Maintenant, madame, vous jugerez si j'en puis trop faire pour un jeune homme si obligeant, si bon, si généreux, et s'il n'est pas la meilleure et la plus digne de toutes les créatures humaines. » L'altération qui s'était faite jusqu'ici dans les traits de Sophie avait été à son désavantage, en donnant un peu trop de pâleur à son teint. Mais en ce moment, elle devint, s'il est possible, plus rouge que du vermillon, et s'écria « Je ne sais que dire. Assurément, on ne peut blâmer ce qui provient de la reconnaissance. Mais quel service puis-je rendre à votre ami en lisant cette lettre, puisque je suis résolu de ne jamais... » Mrs. Miller renouvela encore ses instances, et la conjura de lui pardonner. Mais elle ne pouvait pas, disait-elle, remporter la lettre.
« Je ne puis empêcher, madame, que vous la laissiez, si vous y êtes déterminée. Certainement, vous pouvez la laisser, que je le veuille ou non. Je n'ai pas la présomption de vouloir expliquer ce que Sophie entendait par là, ni même de décider si elle y entendait quelque chose. »
Mais Mrs. Miller interpréta ces derniers mots à sa fantaisie, et posant la lettre sur la table, prit congé, après avoir demandé à Sophie la permission de revenir, ce qui ne lui fut ni accordé ni refusé. La lettre ne resta sur la table qu'aussi longtemps qu'il en fallut à Mrs. Miller pour s'éloigner de la vue de Sophie, qui l'ouvrit aussitôt et la lut. Cette lettre fut bien peu utile à la cause de Jones, car elle ne consistait guère qu'en aveux de son indignité, en lamentations amères, expressions de désespoir, et solennelle protestation de sa fidélité inaltérable envers Sophie. Il espérait, disait-il, l'en convaincre, s'il avait encore l'honneur d'être admis en sa présence. Il ajoutait qu'il pourrait lui expliquer sa lettre à Lady Bellaston, de manière à mériter sinon son pardon, au moins sa pitié, et terminait en faisant le serment que rien ne fut jamais plus loin de sa pensée que d'épouser Lady Bellaston. Quoique Sophie eût lu et relu cette lettre avec une grande attention, le contenu en était une énigme pour elle. et son imagination ne pouvait lui suggérer aucun moyen d'excuser Jones. Elle était encore sans doute fort courroucée contre lui, quoique Lady Bellaston eût une si forte part à son ressentiment qu'il en dut rester bien peu pour aucune autre personne, dans un cœur aussi doux que le sien. Milady devait malheureusement dîner ce jour-là chez sa tante Weston, et elles devaient aller toutes trois dans la soirée à l'opéra, et au-delà au thé de Lady Thomas Hatchett. Sophie aurait bien voulu pouvoir se dispenser de tout cela, mais elle ne voulait pas désobliger sa tante, et quant à l'artifice de supposer une maladie, elle y était si absolument étrangère que cette idée ne lui vint pas une seule fois dans la tête. Ainsi donc, elle descendit dès qu'elle fut habillée, résolue à braver l'horrible ennui de cette journée, qui fut en effet une des plus désagréables qu'elle eût passées. Car Lady Bellaston saisit toutes les occasions de l'insulter le plus poliment et le plus finement possible. Ses esprits étaient tellement abattus qu'elle ne put lui répondre. Et s'il faut confesser la vérité, elle était, même dans les circonstances les plus heureuses, peu prompte à la répartie. Un autre malheur qui arriva à la pauvre Sophie fut la compagnie de Lord Fellamar, qu'elle rencontra à l'opéra et qui la suivit au thé de Lady Hatchett. Quoique ces deux endroits fussent trop publics pour permettre aucun entretien particulier, et qu'elle eût dans l'un la distraction de la musique comme dans l'autre celle du jeu, elle ne put jouir de rien en sa présence. Car il y a dans les femmes une sorte de délicatesse qui ne leur permet pas d'être même à leur aise dans la compagnie d'hommes qu'elles savent avoir des prétentions sur elles quand elles ne veulent pas les favoriser. Voilà deux fois que dans ce chapitre nous parlons d'un thé, mot que la postérité n'entendra probablement pas dans le sens que nous lui donnons ici. Nous nous arrêterons donc un moment, quoique nous soyons fort pressés, pour donner en aussi peu de mots que nous le pourrons une idée de ce genre d'amusement. Un thé est une assemblée de personnes des deux sexes fort bien mises, dont le plus grand nombre joue aux cartes, et le reste ne fait rien du tout, tandis que la maîtresse de la maison joue le rôle d'une maîtresse d'auberge. Et comme la maîtresse d'auberge s'enorgueillit du nombre de ses hôtes, quoique différente en cela de l'autre, elle n'y trouve pas toujours son profit. Il ne faut donc pas s'étonner qu'attendu les efforts continuels et absolument nécessaires pour vivifier ces scènes ennuyeuses, nous entendions les femmes de qualité se plaindre éternellement de n'en avoir pas la force, plainte au surplus absolument particulière aux gens du grand monde. Nous n'aurons pas de peine à croire que ce cercle impertinent dut être insupportable à Sophie, dans la situation d'âme où elle était. Combien ne dut-elle pas trouver difficile d'affecter dans son maintien l'apparence de la gaieté, quand son âme n'éprouvait que la douleur la plus cruelle, quand chacune de ses réflexions ne lui rappelait que des idées déchirantes. Enfin, cependant, la nuit la rendit à son appartement et bientôt à son lit, où nous la laisserons, pour calmer au moins sa mélancolie, quoique nous craignions bien qu'elle soit hors d'état de se livrer au sommeil. Et nous continuerons notre histoire, d'autant plus que nous entendons à notre oreille un certain murmure qui nous annonce que nous sommes à la veille de quelque grand événement. Chapitre 7. Scène pathétique entre M. Allworthy et Mrs. Miller. Aussitôt que M. Allworthy fut de retour de son dîner chez M. Weston, Mrs. Miller eut avec lui une longue conversation dans laquelle elle instruisit que Jones avait malheureusement perdu tout ce qu'il avait eu la bonté de lui donner lors de leur séparation. Elle lui peignit tous les embarras dans lesquels cette perte l'avait jeté et dont elle avait appris tous les détails du fidèle Partridge. Elle lui reparla encore de toutes les obligations qu'elle avait à Jones. Non que sa narration fût extrêmement exacte relativement à sa fille, car, quoiqu'elle eût la plus grande confiance en M. Allworthy, et n'eût aucun espoir de tenir secrète une affaire qui était malheureusement connue de plus d'une demi-douzaine de personnes, elle ne put prendre sur elle de rappeler les circonstances qui compromettaient le plus la chasteté de la pauvre Nancy, et supprima cette partie de son histoire aussi soigneusement que si elle eût été devant un juge, et que si sa fille eût été accusée d'un infanticide. M. Allworthy dit qu'il y avait très peu de caractère assez complètement vicieux pour n'avoir pas le moindre mélange de vertu. Cependant, ajouta-t-il, je ne puis nier que vous n'ayez quelques obligations à ce jeune homme, tout mauvais sujet qu'il soit,
et je consens en conséquence à excuser tout ce qui s'est passé, mais j'exige absolument que vous ne prononciez plus son nom devant moi. Car je vous assure que c'est d'après l'évidence la plus entière et la plus incontestable que je me suis décidé à prendre les mesures que j'ai prises. Je n'en ai pas le moindre doute, dit Mrs. Miller, mais je vous montrerai tous ces faits sous leur couleur vraie et naturelle. Et vous serez alors convaincu que ce jeune homme a plus de droit à vos bontés que quelques autres personnes que je ne nommerai pas. Madame, dit Walworthy, un peu blessé, je ne veux entendre aucune réflexion offensante sur mon neveu. Et si vous dites un mot de plus sur le même ton, je quitte sur le champ votre maison. C'est le plus digne et le meilleur des hommes. Et je vous le répète encore une fois, il a poussé l'amitié pour ce vaurien à un excès blâmable, en me cachant trop longtemps ses actions les plus coupables. L'ingratitude du malheureux pour ce bon jeune homme est ce qui m'irrite le plus, car j'ai, madame, les plus grandes raisons de croire qu'il avait formé le complot de supplanter mon neveu dans mon affection et de me le faire déshériter. Je vous assure, monsieur, répondit Mrs. Miller, un peu effrayée, car bien que M. Allworthy eût le sourire le plus doux et le plus bienveillant, il avait quelque chose de terrible quand il fronçait le sourcil. Je vous assure que je ne parlerai jamais contre aucun de ceux dont vous avez la bonté de penser favorablement. Assurément, monsieur, une telle conduite ne me conviendrait guère, surtout quand il s'agit de votre plus proche parent. Mais, monsieur, vous ne pouvez pas m'en vouloir, vous ne devez pas m'en vouloir, des souhaits que je forme pour ce pauvre misérable. Sûrement, je peux bien l'appeler ainsi à présent, quoique j'ai vu autrefois le temps où vous vous fussiez mis en colère contre moi si j'avais parlé de lui avec le plus léger manque de respect. Combien de fois vous ai-je entendu l'appeler votre fils? Combien de fois m'en avez-vous parlé avec toute la tendresse d'un père? Non, monsieur, je ne peux oublier cette foule d'expressions tendres dont vous vous serviez en me parlant de lui. Enfin, tous les éloges que vous me faisiez de sa beauté, de son esprit, de ses vertus, de son bon naturel et de sa générosité. Non, monsieur, je ne peux les oublier, car je les ai tous trouvés vrais. J'en ai fait l'épreuve dans ma propre cause. Toutes ces bonnes qualités ont sauvé ma famille. Vous me pardonnerez mes larmes, monsieur. Oh oui, vous me les pardonnerez. Lorsque je considère combien le sort de ce pauvre jeune homme, à qui j'ai tant d'obligations, a cruellement changé, lorsque je considère qu'il a perdu vos bontés, qu'il estimait, je le sais, plus que sa propre vie, je dois, ah, je dois pleurer sur lui. Quand vous auriez un poignard à la main, quand je vous verrais prêt à le plonger dans mon sein, je ne pourrais m'empêcher de pleurer le malheur d'un jeune homme que vous avez aimé et que j'aimerai toujours. M. Allworthy fut assez vivement ému de ce discours, mais il ne parut pas que ce fût de colère, car, après un court silence, prenant Mrs. Miller par la main, il lui dit très affectueusement, « Allons, madame, pensons un peu à votre fille. Je ne peux vous blâmer de vous réjouir d'un mariage qui lui promet tant d'avantages. Mais vous savez que ces avantages dépendent en grande partie de la réconciliation avec le père. Je connais beaucoup M. Nightingale. J'ai eu autrefois des affaires à traiter avec lui. Je lui ferai une visite et tâcherai de vous servir en cette occasion. Je le crois un peu attaché à ses intérêts, mais comme il s'agit de son fils unique, et qu'enfin la chose est irréparable, peut-être parviendra-t-il avec le temps à entendre raison. Je vous promets de faire tout ce que je pourrai pour vous. » La pauvre femme fit 1000 remerciements à M. Allworthy pour cette offre obligeante et généreuse, et ne put s'empêcher de saisir encore cette occasion d'exprimer sa reconnaissance pour Jones, à qui, ajouta-t-elle, j'ai encore l'obligation du service que vous voulez bien me rendre. Allworthy l'interrompit avec un geste plein de douceur. Il était trop bon pour être offensé d'un sentiment qui avait un principe aussi noble que celui qui faisait agir Mrs. Miller. Et véritablement, si ce nouvel événement n'eût pas fait revivre son ancienne colère contre Jones, il est possible qu'elle se fût un peu adoucie au récit d'une action que la méchanceté elle-même n'aurait pu attribuer à un mauvais motif. M. Allworthy et Mrs. Miller étaient restés plus d'une heure ensemble, quand leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Blifil et d'une autre personne, qui n'était autre que M. Dowling, le procureur, lequel était devenu le grand favori de M. Blifil, et que M. Allworthy, à la sollicitation de son neveu, avait chargé de ses affaires. Il l'avait aussi recommandé à M. Weston, de qui le procureur avait reçu la promesse d'être promu au même office dès qu'il serait vacant dans sa maison. M. Weston l'avait chargé, en attendant, de terminer quelques affaires qu'il avait alors à Londres relativement à certaines hypothèques. C'était là le principal motif qui amenait alors M. Dowling à la ville. Il avait profité de cette occasion pour apporter de l'argent à M. Allworthy et lui rendre compte de quelques autres affaires. Mais comme tous ces détails sont beaucoup trop ennuyeux pour trouver place dans cette histoire, nous laisserons l'oncle, le neveu et le procureur parler ensemble de leurs affaires et nous passerons à autre chose.